printemps 2019. Plus d'un millier de femmes se réunissent autour d'un manifeste pour dire stop. Elles expriment un ras-le-bol des inégalités, des propos misogynes, des violences sexistes, des disparités salariales et des préjugés qui limitent leur carrière. Se pourrait-il alors que le monde des musiques actuelles, que l'on pense plutôt ouvert et tolérant, ne le soit dans les faits pas réellement? Derrière les apparences, que se cache-t-il en coulisses? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans la Cantatrice Show.
Lundi 9 octobre dernier avait lieu à l'espace culture de l'Université de Lille à Villeneuve-d'Ascq une projection de deux épisodes de la série documentaire La Cantatrice Chaume, une série de films qui met en lumière des musiciennes, programmatrices, directrices de labels, techniciennes responsables de salles de musique actuelles, un moyen de leur donner la parole et de dénoncer les inégalités femmes-hommes très présentes dans le secteur. Cette rencontre était co-organisée par le 99 bis de Wany. On écoute Juliette Lucas qui est chargée d'action culturelle.
Donc l'idée vient du fait que le 99 bis, l'endroit où je travaille, est un lieu de patrimoine, donc c'est une ancienne mine mais qui a été reconvertie dans le domaine des musiques actuelles. Donc on travaille à se développer dans le milieu des musiques actuelles. On est une salle de concert mais on développe aussi de l'action culturelle et on accompagne des artistes, des musiciens, musiciennes. Qui veulent se professionnaliser. Et l'année dernière, on est rentré dans le cadre d'un appel à projet pour défendre une action. On faisait un workshop en non-mixité, donc un stage pour des musiciennes amatrices où elles étaient coachées par Sasso, Sophie Sand, une chanteuse et musicienne. Et l'idée, c'était qu'elles avaient une semaine pour faire des morceaux tout ensemble, les jouer sur scène. Et autour de cet événement, nous, on avait une programmation de féminine. Et puis, on a diffusé l'épisode 1 de La Cantatrice Chaume, donc, qui est focalisé sur les artistes, les musiciennes et leurs difficultés d'accès à la scène. Et donc suite à ça, donc Manon Cossignac qui est réalisatrice, co-réalisatrice de ce documentaire, a sorti l'épisode 2 qui parle lui plutôt des professionnels du secteur, donc un peu toutes les corps de métiers qu'on trouve dans ce milieu, mais bien particulièrement les métiers qui sont sous-représentés, enfin où les femmes sont sous-représentées, donc les métiers de la technique et les postes de décision comme la programmation, la direction des salles. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était intéressant de proposer ce visionnage, de continuer à travailler avec Manon et de proposer, de montrer ces documentaires-là à plutôt des jeunes, des étudiants, étudiantes qui se dirigent vers ce métier en se disant que voilà, c'est là où il faut montrer des initiatives, aussi poser des questions. C'est à ce moment-là où on peut former les futurs professionnels. Voilà, en sachant que c'est forcément des questions qui vont se poser dans leur futur.
L'idée, c'était de parler des inégalités sous le prisme des musiques actuelles.
Manon Cossignac, co-réalisatrice de La Cantatrice Chaume.
Parce que en fait, la musique touche un public assez large et diversifié, donc c'était une façon d'aborder les inégalités. Et là, on a axé du coup autour des inégalités femmes-hommes. L'idée de la série, c'est un premier épisode autour des artistes, un deuxième épisode autour des professionnels, et voilà, mettre en évidence en fait quels sont les enjeux et qu'est-ce qui bloque en fait l'accès à cet univers artistique pour les femmes en fait.
Alors ça revient sur un certain nombre de mécanismes, hein, le plafond de verre, la faible valorisation des femmes, le partage des tâches. On a longtemps cru que la culture, la musique, c'était un milieu à l'abri de ces discriminations, de ces mécanismes. Et finalement, c'est vraiment pas terrible quoi, le constat.
Ouais, c'est ce qu'on montre dans un premier temps dans le documentaire qui fait un peu mal des fois. On a une intervenante qui s'appelle, je vais manger son nom, Anne Grumet, voilà, qui dit dès le début en fait que la musique, on pensait qu'elle était plus en avance, mais finalement, on a l'armée par exemple et la police qui ont mis des systèmes de recrutement paritaire avant qu'on se pose ces questions dans les musiques. Et ça a fait un peu mal au début. Quand on prend les chiffres, en effet, en fait, on est très très loin d'une égalité. Celui que j'ai en tête et qui est assez marquant, c'est 5,4% de femmes qui sont instrumentistes en France. Si on prend le côté plutôt du coup des autres professionnels, on a 5% de techniciennes. Donc il y a vraiment un enjeu là-dessus. même sur les personnes qui sont mises en avant sur scène, c'est souvent des hommes, il y a très peu de femmes, et si on prend en plus les personnes non-binaires, transgenres, et du coup toutes les personnes qui rentrent dans ce spectre de l'identité, qui ne se reconnaissent pas sous ces normes de binarité, sont peu présentes sur les scènes de concert. Ouais.
Pourtant, dans les écoles de musique, c'est relativement égal ou paritaire. Vous parlez de... Il est question dans le documentaire d'un phénomène d'évaporation. C'est quoi cette évaporation et comment ça se passe en fait?
Eh bien, comment ça se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Et puis, en fait, ces personnes qui sont formées, ces femmes qui sont formées, soit ne trouvent pas d'emploi, soit ne se sentent pas légitimes à aller sur certains emplois, s'auto-censurent, en fait. Il y a aussi le côté qu'il y a beaucoup de violences sexuelles dans ces structures, qui ont fait qu'au bout d'un moment, en fait, on sort de ce milieu. Quand on a une trentaine d'années aussi, qu'en fait on nous renvoie au fait qu'on est une femme et que du coup on va faire des enfants et que du coup on pourra pas avoir de poste à responsabilité et que machin, en fait on voit plus d'issue pour continuer sur ces milieux.
Donc il n'y a pas un moment auquel c'est plus ou moins difficile et il n'y a pas un processus qui va nécessairement fonctionner à un moment ou à un autre. On est dans une trajectoire qui est toujours plus difficile pour les femmes que pour les hommes.
Si on regarde l'ensemble des écoles d'enseignement artistique supérieur, les femmes y sont à 60% étudiantes. Dans le secteur artistique et culturel, les femmes sont actives à 31%. Donc il y a une évaporation des femmes. Le secteur des musiques actuelles est celui où on voit le moins de femmes sur scène. Il n'y a que 5,4% d'instrumentistes femmes.
Alice Clivio, je suis chargée de projet en action culturelle à l'ARA, autour des rythmes actuels, association roubaisienne.
Là, on sort de la projection de ce film documentaire, La cantatrice chaume. Qu'est-ce que vous avez pensé d'abord de ce film?
J'ai malheureusement pas été surprise des différentes sujets qui sont abordés dans les deux documentaires. C'est vrai que ça fait un an et demi que je commence à être vraiment... au cœur de discussions et d'échanges au niveau professionnel dans le secteur des musiques actuelles, et c'est toujours un peu les mêmes constats qui ressortent, mais en tout cas c'est toujours intéressant de pouvoir débattre et d'avoir d'autres supports pour débattre autour de ces sujets.
C'est vrai que pendant longtemps on a cru que la culture, la musique, c'était des secteurs, des milieux à l'abri du sexisme, et puis finalement non.
Non, comme dans tous les rapports humains, on voit bien que dans n'importe quel secteur, il y a toujours finalement des réactions, des situations qui sont complexes. Donc ce qui est important, c'est de sensibiliser. On a parlé aussi de formations qui sont mises de plus en plus en place et qui sont obligatoires pour les structures adhérentes au Centre National de la Musique. C'est vrai que je pense que ça, c'est déjà un premier pas pour avancer sur notamment le sujet des violences sexistes et sexuelles.
Alors, à l'ARA, vous êtes déjà assez avancé dans cette réflexion. Il y a une équipe qui a des projets. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, donc nous, on est à la fois en fait une école de musique avec 250 adhérents par an, de la petite enfance jusqu'aux adultes. Il y a aussi des projets d'action culturelle menés avec plein de publics et puis toute une partie accompagnement d'artistes. Donc c'est vrai que sur ces différents volets, nous, on essaye à chaque échelle, que ce soit de l'apprenti en école de musique ou de l'artiste accompagné, de mettre en place... des actions qui vont favoriser à ce que les personnes se sentent légitimes, n'aient pas l'impression qu'elles ont choisi leur instrument pour faire plaisir aux parents, parce que c'est des choses genrées, notamment c'est le chant pour les femmes. Donc on essaye d'avancer vraiment à différentes petites échelles au sein de nos projets. Et on avait également coporté en 2021, pendant le Covid, une enquête, une étude à l'échelle locale sur les parcours de musiciennes avec la cave aux poètes, qui s'appelle « On n'est pas musicienne, on le devient », et qui reposait effectivement déjà à une échelle très locale les mêmes questions que la cantatrice chaume sur on va dire la question de la légitimité, des remarques sexistes, quand on se branche par exemple sur scène en tant que musicienne, que le fait qu'on va peut-être abandonner son parcours musical parce que c'est trop dur de se professionnaliser. Donc c'est vrai que ça fait toujours écho aux mêmes remarques de la part des musiciennes et qu'à un moment, le parcours peut avoir pas mal d'embûches pour persévérer.
On va avoir des hommes à la programmation, des hommes à la technique, des hommes à la direction et des femmes dans les fonctions support ou dans ce qui concerne la médiation, l'action culturelle, la communication ou l'administration.
Il y avait 5% de femmes qui travaillent dans le son dans le monde, il y a quelques années là. À chaque fois que j'arrive quelque part, on me dit « Ah, c'est chouette de voir une femme, il y a de plus en plus de femmes dans le métier ». Le fait d'en voir de temps en temps, on a l'impression que la profession se féminise, ce qui est peut-être le cas parce qu'avant, il y en avait peut-être 0. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que ça a quand même stagné depuis quelques années. Les 5%, c'était, je crois que c'était il y a 7-8 ans. Je pense pas que ça soit non plus un truc de fou aujourd'hui, quoi. Donc, je serais curieuse de voir le chiffre, franchement.
On continue de discuter autour de ce documentaire La Cantatrice Chaume et autour de l'égalité femmes-hommes dans les musiques actuelles. On retrouve à notre micro Juliette Lucas du 99 bis.
Je pense que le milieu culturel dans le sens le plus large, je m'aventurerai pas à faire des grandes analyses, mais je pense que déjà, c'est le reflet quand même de la société. Donc, on va retrouver des phénomènes qui sont exactement les mêmes que dans la société, la cooptation, le fait que voilà, on accorde plus difficilement des postes à responsabilité à des femmes qu'à des hommes cis. Et en fait, je pense aussi qu'il y a ce phénomène qui est un peu expliqué dans le secteur culturel. Il y a cette idéologie du talent, un peu la sacralisation de l'art qui fait qu'on refuse de se poser des questions, de quantifier les compétences, de mettre des critères de l'ordre de la parité. Et je pense qu'en plus de ça, il y a l'idée qu'on ne va pas les scruter. On se sent un peu... on a l'impression que c'est un milieu qui est très militant de base, qui est très ouvert, qui va s'identifier comme étant politisé et facteur d'émancipation. Donc on va un peu... s'empêcher d'être critique envers nous-mêmes. Et voilà, on part du principe que de toute façon, à partir du moment où on fait de l'art, c'est déjà émancipateur, donc on ne va pas essayer de mettre des bâtons dans les roues de cet art-là, même si du coup, on reproduit en fait des modèles qui sont d'hégémonie masculine. Et puis sur la musique, il y a aussi ce critère, il y a une des intervenantes du documentaire qui parle de l'effet Boys Club et le fait que c'est un secteur qui est jeune mais qui a été vraiment monté par des musiciens et leurs copains. Qui étaient musiciens majoritairement hommes parce que c'est le monde, c'est un reflet du patriarcat. Et après, du coup, il y a ce côté un peu un cercle très... coopté, qui s'est formé, un petit cercle qu'il est très dur d'ouvrir et qu'il est très dur de remettre en question parce que c'est des gens qui sont un peu battus, où c'est un secteur difficile où on défend un peu son gagne-pain quotidiennement, donc c'est dur de les remettre en question.
J'ai l'impression quand même que ça va vraiment mieux, c'est vraiment sur une pente ascendante. Il y a des communautés comme le groupe Shisetsu, par exemple, qui est un groupe Facebook, où moi j'appartiens à un autre groupe qui s'appelle Woman Speech, donc c'est pareil, une communauté de femmes de la musique mais spécialisée en électronique. C'est très intéressant parce qu'on a créé un peu cette corporation de femmes dans le métier qui nous permet beaucoup d'entraide, qui nous permet du soutien, qui nous permet d'exister en tant que d'avoir nos propres réseaux, de se faire passer les offres d'emploi et de favoriser en fait justement la présence des femmes dans ce milieu musical qui n'est pas forcément évident d'accès, au premier abord. Je pense qu'on observe une progression vers la parité qui est très positive. Après, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de sexisme. Enfin, le sexisme est toujours super omniprésent et on est quand même qu'à, 15% de têtes d'affiches femmes bookées sur les festivals. On reste une minorité, une exception.
Sur la question des nouvelles initiatives et du mouvement pour plus d'égalité, on écoute nos trois interlocutrices. Donc d'abord la co-réalisatrice du documentaire, Manon Cossignac, puis Alice Clivio de Lara à Roubaix et Juliette Lucas du 99 bis.
Il y a beaucoup de collectifs qui se mettent en place pour qu'on arrive à une réelle égalité. Et là, on parle d'égalité femmes-hommes, mais plus largement, de penser à un féminisme intersectionnel où tout le monde pourrait avoir sa place, que ce soit du coup des personnes racisées, que ce soit des personnes qui se retrouvent pas dans cette binarité, des personnes en situation de handicap. Enfin, donc ces collectifs essaient aussi de travailler tous ces enjeux-là. Après, dans les structures culturelles, les personnes qui sont au poste de décision, c'est souvent des hommes et qui sont peut-être un peu moins sensibilisés ou en tout cas qui se sentent moins concernés parce qu'ils ne vivent pas les mêmes problématiques. Et l'enjeu, c'est aussi que ces personnes se disent bah, « oui, comme Émilie Gonneau dit dans le documentaire, on fait partie du problème et on fait aussi partie de la solution, donc faut qu'on y travaille toutes et tous ensemble ».
On avait fait une première expérimentation avec des jeunes apprentis de l'école de musique pour les inciter à jammer. En fait, en face de notre association, il y a une association partenaire qui s'appelle le Bar Live. Et on s'est rendu compte que les apprentis de l'école de musique allaient très peu sur scène et osaient improviser en fait, dans un contexte de jam. Donc il y a eu toute une proposition pour qu'elles puissent découvrir à la fois la technique, comment on se branche sur scène, comment on peut aussi improviser. Ben voilà, c'était tout un projet aussi pour un peu inciter déjà juste les jeunes femmes à monter sur la scène. Donc à chaque fois, c'est des petits pas. On parlait de petites graines souvent dans les différents échanges qu'il y a eu. Et ça, c'est un exemple de projet en non-mixité. Pour l'instant, on n'en a pas multiplié. Mais c'est vrai que ça peut être parfois une réponse, suivant le contexte, pour impulser une dynamique chez certaines jeunes femmes.
Moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a un changement qui s'est fait depuis, par exemple, qu'on a une directrice qui s'appelle Virginie Labroche et qui, du coup, a mis l'idée de la parité, le regard sur le genre des personnes dans la discussion au moment où on programme, au moment où on sélectionne des dossiers pour des résidences. Donc l'idée, c'est que dès le moment de la programmation, maintenant, on se pose cette question qui est légitime. Et donc, je trouve qu'à partir de ce moment-là, ça permet que ce soit quand même dans la tête de beaucoup, de la plupart, de toute l'équipe, en fait. Et après, il y a des formations sur les VHSS, donc les violences sexuelles et sexistes. Et il y a tout un tas d'autres choses. Moi, par exemple, au titre de l'action culturelle, c'est aussi quelque chose que j'essaie de regarder le plus possible. Et y compris dans les publics. Donc regardez quels musiciens, musiciennes, amateurs, amatrices vont se porter volontaires pour un projet. Regardez un peu comment dans une classe, par exemple, qui va oser le plus facilement prendre la parole, essayer les instruments et essayer de proposer un autre fonctionnement aussi pour permettre à chacune de s'exprimer.
Moi, je crois beaucoup à la petite graine qui va faire, qui va créer quelque chose dans la tête des gens.
C'est aussi donner accès à plein de récits manquants. Il y a plein de récits en fait qui ne sont peut-être jamais écrits, de musiques qui sont jamais, qui n'ont jamais été composées. Ça a plutôt vocation à nous rendre plus riches. C'est ça le vrai enjeu, et il est beaucoup plus enthousiasmant et enrichissant que ce qu'on peut imaginer.
Alors, le film La cantatrice chaume a beaucoup tourné. Les deux épisodes ont fait l'objet de nombreuses rencontres dans la France entière. Pour autant, pour l'épisode 3, c'est pas gagné du tout.
En fait, l'idée, c'était du coup d'avoir une vision à 360 de ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe sur scène, qu'est-ce qui se passe derrière la scène et qu'est-ce qui se passe face à la scène. Donc, au troisième épisode sur les publics, l'idée, c'était de savoir est-ce que les attentes des publics sont les mêmes lorsque c'est un homme ou une femme sur scène. Est-ce que le harcèlement est plus présent dans le public lorsque c'est un homme ou une femme sur scène? Est-ce que le genre musical a un impact là-dessus? Est-ce que les pogos sont des endroits safe? C'était toutes ces questions-là, et aujourd'hui, j'ai fait un tour de France, mais je trouve malheureusement pas de financement pour le troisième épisode. Donc quelqu'un a beaucoup d'argent et ne sait pas quoi en faire, n'hésitez pas à me contacter sur la cantatrice Chum.
Merci à Manon Cossignac, co-réalisatrice, avec Florent Barallon et Germain Bachet de la série documentaire La Cantatrice Chaume. Merci aussi à Alice Clivio de Lara à Roubaix et à Juliette Lucas qui est chargée d'action culturelle à Oigny. On les a toutes trois rencontrées le 9 octobre dernier à l'occasion d'une projection rencontre à l'espace culture de la Cité scientifique de l'Université de Lille.